Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le Front National, tu l'aimes ou tu le quittes? Il a choisi, Florian Philippot claque la porte du parti. Il l'annonce ce matin, on verra si ce départ aura des conséquences sur la ligne politique du Front National. Des élus arrêtés, des bulletins de vote confisqués et une colère qui monte. Manifestation cette nuit dans plusieurs villes de Catalogne, à 10 jours du référendum sur l'indépendance. Madrid tente par tous les moyens d'empêcher le scrutin. Attention, un conflit peut en cacher un autre. Nouvelle manifestation contre la réforme du Code du Travail aujourd'hui, mais c'est le mouvement des routiers qui inquiète le plus le gouvernement. Ils promettent de bloquer tout le pays à partir de lundi. La politique d'Emmanuel Macron, on en parle justement dans 20 minutes avec votre invité, Nicolas. Il a été l'un des inspirateurs du programme économique du candidat Macron.
J'ai nommé Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, au micro d'Inter, donc à 8h20. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans le journal également, l'espoir encore au Mexique. Les secouristes cherchent des survivants au lendemain du tremblement de terre qui a fait plus de 200 morts. En France, le MEDEF qui fâche les profs avec une campagne qui cible l'éducation nationale. Enfin, cette question, serions-nous tous parano sur les réseaux sociaux ? La crise couvait depuis des mois, elle éclate donc au grand jour. Florian Philippot vient de claquer la porte du Front National quelques heures seulement après avoir été désavoué par sa présidente Marine Le Pen. Hier soir, elle lui avait retiré ses fonctions liées à la stratégie et à la communication. La réponse ne s'est pas fait attendre, c'était il y a quelques minutes sur France 2.
On m'a dit que j'étais vice-président donc à rien. Bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, nous sommes dans un processus de refondation. Et j'ai vu semaine après semaine, alors j'ai peut-être pas voulu le voir tout de suite, c'est vrai, que ça se passait mal, que cette refondation se passait mal, et qu'en réalité, elle cachait, eh bien, un retour en arrière terrible. Le Front National rattrapé par ses vieux démons. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient partis chez Maigret à l'époque sur une offre politique très radicale, qui sont revenus récemment au Front National et qui ne sont pas mes amis.
Voilà, donc Florian Philippot qui quitte le navire officiellement car il n'a pas voulu lâcher la tête de son association Les Patriotes. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Florian Philippot n'était pas que le vice-président du FN, il était également le stratège, le conseiller de Marine Le Pen, même s'il s'en était éloigné ces derniers mois. L'un des artisans de la dédiabolisation également. Est-ce que ça augure d'un changement de ligne au Front National?
Alors ce qui est sûr, c'est que ce retrait marque la victoire des opposants à la ligne Philippot, un FN dédiabolisé, vous le disiez, mais surtout ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire plus social que libéral, plus souverainiste, anti-Europe, anti-euro, qu'anti-immigration. C'est la même ligne en fait que Marine Le Pen et c'est pour ça que les deux ont partagé longtemps cette connivence. Tant qu'on était dans l'ascension électorale, tant que Marine Le Pen protégeait son confident, la contestation était mesurée en interne, mais Florian Philippot agaçait déjà pour sa personnalité, un côté arrogant, un peu clanique, entouré de la jeune génération qui l'a emmené au FN. Depuis la déception électorale, Marine Le Pen est affaiblie, les tenants d'un FN de droite, une majorité des cadres du parti lui mettent la pression pour écarter Florian Philippot, considéré comme responsable de la défaite, avec en particulier son obsession sur la sortie de l'euro. Ils attendaient un prétexte, ils l'ont trouvé, la création de l'association Les Patriotes. Prétexte idéal, pardon, pour critiquer le numéro 2 du parti, l'accusé de vouloir créer sa propre officine, de rouler pour lui. Même impossible pour Marine Le Pen de ne pas rééquilibrer. Elle l'a fait en le sanctionnant. Florian Philippot le savait, lui qui a compris qu'il était minoritaire dans le parti, que la sortie de l'euro risquait d'être abandonnée lors d'une consultation militante à la fin du mois. Alors oui, le départ de Florian Philippot signifie un changement de ligne, comme il le dit lui-même ce matin, en parlant d'un retour en arrière d'un FN rattrapé par ses vieux démons.
Merci Aurélien Colli. N'allez pas plus loin, ce référendum est une chimère. L'avertissement est signé du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy hier soir dans une intervention solennelle à la télévision. À 10 jours du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, il demande aux organisateurs de renoncer au nom de la démocratie.
Je leur demande d'arrêter leurs actions illégales, d'abandonner leurs projets. Ils savent que ce référendum ne pourra pas se tenir. Il n'a jamais été légal. Jamais été légitime. Ce n'est rien d'autre qu'une chimère impossible.
Les mots de Mariano Rajoy hier soir à la télévision et dans la foulée comme une réponse à ses propos. Une foule qui déferle dans les rues de Barcelone et de Gérone. Les indépendantistes bravent le pouvoir par milliers à l'image de cette femme. Astrid Dessay, elle est maire d'une petite ville catalane et elle compte bien organiser le scrutin.
Ils sont aussi importants les gens du non que les gens du oui. Et nous voulons simplement la démocratie. Nous savons tous les risques que nous prenons, nous les connaissons. C'est quand même très décevant de voir ce qu'est en train de faire le gouvernement espagnol. Nous avons la sensation d'être sous une dictature, pas une démocratie. Nous nous sentons jugés, que pour le fait de vouloir laisser voter nos concitoyens.
La manifestation a fini par se disperser tard dans la nuit, mais tout le monde a promis de se retrouver dès aujourd'hui. Hier, la tension était encore montée d'un cran avec l'arrestation d'une douzaine de membres du gouvernement régional et la saisie de près de 10 millions de bulletins de vote pour empêcher la tenue du scrutin jugé illégal par Madrid. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Quant aux Catalans, dans leur ensemble, ils ne sont pas tous favorables à l'indépendance, loin de là.
C'est ce que disent en tout cas les derniers sondages. Sur les 7,5 millions d'habitants que compte la région autonome, les opposants à l'indépendance seraient plutôt majoritaires, peut-être jusqu'à 10 points d'écart, une tendance partagée par les représentants du patronat, les milieux d'affaires et les entrepreneurs, très opposés à ce Brexit version catalane. Il faut dire qu'entre le demi-milliard d'Européens et les quelques millions de Catalans, les perspectives économiques ne sont bien sûr pas les mêmes. L'Europe est également du côté de Madrid, sans le dire au nom de la souveraineté des États, mais sans le cacher non plus au nom du respect de la Cour constitutionnelle qui a interdit le scrutin. L'Europe qui, avec la Corse, les Flandres, l'Écosse ou le Pays Basque, a tout à craindre d'un effet boule de neige. Les syndicats de magistrats ont publié une lettre pour dénoncer la séparation. La maire de Barcelone est sur les freins, pas contre le vote, mais pas pour l'indépendance, à l'image d'ailleurs de beaucoup d'artistes, d'intellectuels et de professeurs d'université, jusqu'à Rafael Nadal, l'icône, qui a pris nettement parti contre l'autodétermination.
Voilà, Nadal qui prend le parti du maintien dans l'Espagne, merci Luc Lemonnier. Quand le Barça, lui, se déclare favorable à l'indépendance, le club catalan de football s'est fendu d'un communiqué hier pour apporter son soutien aux manifestants.
8h07, il cherche un souffle, la moindre trace de vie.
36 heures après le tremblement de terre au Mexique, les secouristes sondent toujours les décombres à la recherche des survivants. Des milliers d'habitants sont venus les aider pour déblayer, pour creuser ou pour venir en aide aux blessés ou aux familles des disparus. Reportage à Mexico, Emmanuel Stills.
Victor, le chef d'un groupe de volontaires, mène son équipe au pas de course à travers le quartier de la Roma, le plus durement touché par le tremblement de terre.
Finalement, tout le monde veut aider et nous sommes si nombreux qu'il y a presque une saturation de volontaires. Donc nous bougeons pour rejoindre d'autres équipes qui ont besoin de renforts.
Les volontaires parviennent à un grand carrefour près duquel deux immeubles se sont effondrés. Il y a deux listes de noms qui sont affichées sur les réverbères, celle des survivants et celle des disparus. Là, les volontaires forment des contingents de spécialistes. La foule se passe le mot, il faut des plombiers et des électriciens. Quelques personnes lèvent la main et sortent du rang. Plus loin, assis sur une pelleteuse, deux maçons attendent leur tour pour participer aux travaux de déblaiement. Nous voulons aider et nous attendrons jusqu'à la nuit s'il le faut, explique l'un d'eux. Et quand des volontaires fourbus terminent leur service couverts de poussière, ils sont salués par des applaudissements.
Et le dernier bilan sur place fait état de 225 morts. De très nombreux habitants n'ont pas voulu rentrer chez eux par crainte d'une réplique plus importante que les autres.
Porto Rico plongé dans le noir, les 3 millions d'habitants de l'île sont privés, Marc, de courant depuis le passage de l'ouragan Maria.
Et ces vents à 240 km/h sans attendre le bilan. Le gouverneur de l'île évoque déjà l'ouragan le plus dévastateur de son histoire. Au total, Maria laisse derrière lui 10 morts dans les Caraïbes. En Guadeloupe, au-delà du bilan humain, c'est aussi l'économie qui va souffrir. La quasi-totalité des bananeraies de l'île ont été touchées. L'état de catastrophe naturelle sera décrété après-demain. Une heure des réunions cette nuit à New York et à la sortie, l'impasse. Les signataires de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 se sont retrouvés à l'ONU. Ambiance plutôt tendue autour de la table. Les États-Unis menacent toujours de se retirer de l'accord qu'ils considèrent comme trop favorable à Téhéran. Pourquoi dénoncer un texte qui fonctionne, répond la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, quand Emmanuel Macron lui propose une solution médiane. Il estime qu'on pourrait conserver l'accord et en même temps l'améliorer.
8h09, on prend presque les mêmes et on recommence.
Ils s'étaient quittés la semaine dernière, les revoilà sur les pavés, les opposants à la réforme du code du travail redescendent dans la rue. CGT, FSU, Solidaires et UNEF, mais il y aura aussi des petits nouveaux aujourd'hui dans les cortèges. Des cadres de la CGC s'apprêtent eux aussi à défiler à la veille de la présentation des ordonnances au Conseil des ministres. Voilà pour la première mèche sociale de cette semaine, mais il y en a une autre qui pointe le bout de son nez. Dès lundi, les routiers menacent de bloquer le pays et de mettre les stations-service au régime sec. La réunion hier au ministère des Transports n'a pas calmé la colère de leurs syndicats. Bien au contraire, Hélène Philly.
Les routiers appellent les transports urbains, les déchets, les camions-citernes à les rejoindre. La CGT Transport sait où appuyer. Elle conseille déjà aux automobilistes de prendre leurs précautions et de faire le plein avant lundi. Le syndicat l'assure, le gouvernement a réussi à faire l'unanimité contre lui. CGT, Force Ouvrière, CFDT, CFTC, s'ils ne partagent pas encore le mode d'action, ils s'accordent sur le diagnostic. Les ordonnances, c'est le moins-disant social. Ils craignent la remise en cause de primes par de nouveaux accords d'entreprise. Une prime d'ancienneté peut représenter jusqu'à 100 euros par mois. Dans un secteur très concurrentiel, composé à plus de 80% de TPE-PME, les syndicats redoutent le dumping social. Il faut un contrôle, martèlent la CFDT et la CFTC. Les fédérations transports proposent la création d'un comité de suivi qui aurait un droit de regard et surtout un droit de veto. Sans réponse du gouvernement, elles aussi promettent de hausser le ton. Le dialogue est entamé, les routiers n'ont pas à s'inquiéter, rassure le ministère du Transport. Mais il reste peu de temps pour calmer la colère.
Et à la fronde sociale s'ajoute pour le gouvernement un autre nuage judiciaire, celui-là, dans l'affaire du déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas lorsqu'il était ministre. La justice a ouvert une enquête pour favoritisme. On le sait, c'est l'actuel ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui dirigeait alors Business France, la structure chargée de préparer ce déplacement. Et aujourd'hui, les juges vont accélérer dans le dossier avec une première audition. Ils ont convoqué une ancienne cadre de Business France qui pourrait en ressortir avec une mise en examen. Sarah Guibaudot.
Ce voyage à Las Vegas, c'est en particulier elle, Fabienne Botticheno, l'ancienne directrice de la communication de Business France, qui l'a organisée. La nuit de la French Tech met en valeur les startups françaises lors du grand salon de l'électronique. En 2016, vient se greffer une belle opération de communication du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Le tout finit par se chiffrer à près de 300 000 euros. À ce tarif, pour les juges, la question est de comprendre pourquoi l'organisme public, dirigé alors par Muriel Pénicaud, n'a pas fait d'appel d'offres. Est-ce parce que le délai était trop court, quelques semaines, et qu'il y avait une pression du cabinet du ministre? De son côté, l'agence de communication Havas, dont aucun responsable n'a encore été entendu, fait valoir qu'elle avait un contrat global avec Business France pour des opérations à l'étranger et que Las Vegas en faisait partie. Selon que Fabienne Botticheno ressortira ce soir mise en examen ou pas, on saura quelle est la thèse privilégiée par les juges. S'ils estiment, comme le parquet et l'inspection des finances, que les règles des marchés publics n'ont pas été respectées, Muriel Pénicaud devra s'attendre à être convoquée à son tour.
8h12, quand le patronat fait la leçon aux profs. S'il voulait faire réagir, c'est plutôt réussi. Le MEDEF vient de s'attirer les foudres de plusieurs syndicats enseignants en cause. Une campagne lancée il y a plusieurs mois, mais qui était passée un peu inaperçue. Elle était censée faire la promotion de la formation, mais c'est son slogan qui a du mal à passer. Solène Lehen.
Si l'école faisait son travail, j'aurais un travail. Une phrase adossée au manifeste pour l'éducation publié par le MEDEF un peu avant la campagne présidentielle. Une phrase qui était jusqu'à présent passée inaperçue et dénichée hier sur Internet par le syndicat de la fonction publique FSU, dirigé par Bernadette Groison.
Cette phrase du MEDEF est une insulte pour tous les enseignants du pays. C'est grossier, c'est totalement faux et injuste. C'est jeter en pâture l'école.
Les enseignants ne doivent pas le prendre pour eux, prévient le MEDEF, tout en assumant. Selon l'organisation patronale, il faut parler des dysfonctionnements de l'institution Éducation nationale qui, je cite, « doit améliorer sa performance ». C'est bien l'école d'aujourd'hui qui débouche sur un chômage de masse des jeunes Français, une éducation trop académique, pas assez professionnelle. Il faut réformer l'école. Certes, reconnaît-on au MEDEF, cette phrase était provoque, délibérément provoque, pour attirer l'attention sur cette campagne pour l'éducation élaborée par l'organisation patronale. Pari réussi, le MEDEF s'est attiré l'attention des enseignants, mais aussi leur foudre.
Plus de 400 emplois supprimés à Nice. Le laboratoire Galderma, spécialisé dans la dermatologie, va tailler dans ses effectifs. C'est son centre de recherche et de développement installé à Sophia Antipolis qui en fera les frais. Propriété du groupe Nestlé, il était considéré comme le plus grand centre de recherche en dermatologie au monde. Enfin, en bref, le bio mis à la diète. Le gouvernement va limiter ses aides au secteur qui est en plein essor. Les agriculteurs qui passent au bio continuent à bénéficier des aides à la conversion, mais ceux qui le sont déjà ne toucheront plus d'argent public.
Et qui a peur des pirates informatiques?
À peu près tout le monde, si l'on en croit une étude qui vient d'être publiée. 90% des Français se disent préoccupés par la sécurité de leurs données personnelles sur Internet. Et pourtant, drôle de paradoxe, dans le même temps, quand il s'agit de se protéger avec des mots de passe difficiles à falsifier, là, il n'y a plus grand monde. Reportage Mathilde Dehémy.
Adossé au mur du fast-food, Thomas, 18 ans, connaît la combine pour trouver du Wi-Fi.
Il suffit d'aller dans le réglage. Normalement, il y a marqué McDo. On clique dessus, on accepte les conditions et ça nous connecte.
Thomas aurait pu tomber sur un faux site similaire à l'original permettant de détourner ses données. Autre mauvaise habitude, 74% des Français interrogés par l'Institut CSA utilisent le même mot de passe.
Ouais, c'est toujours le même, partout. Bah, c'est mon nom avec mon arrondissement.
Franchement, il n'y a pas de souci. Dès qu'on a un mot de passe assez compliqué ou quelque chose de personnel que personne ne connaît, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on n'est pas une star, on n'a pas beaucoup de problèmes.
Pas besoin d'être une star pour se faire pirater son compte. C'est ce qui est arrivé à Catherine, 47 ans.
Compte bancaire et virus dans l'ordinateur. Et pourtant, je vis de mon historique, les cookies, les machins, les trucs. Donc, je suis extrêmement méfiante. Et même comme ça, ça arrive.
Il ne faut pas croire que laisser régulièrement son nom ou mail sur Internet soit anodin, rappelle Jason Herbert, webmaster.
On nous demande de remplir notre sexe, notre âge, notre code postal. Toutes ces informations vont être synchronisées. Il y a une base de données qui va se créer, qui va permettre de savoir que sur telle adresse IP, ça correspond à telle personne. Et cette personne a été sur ce site Internet. Donc des sociétés vont gagner de l'argent grâce à leurs données personnelles, sans leur consentement.
D'après l'Institut CSA, la moitié des personnes interrogées payent en ligne, soit 12 points de plus qu'il y a 3 ans, et accepte ainsi les risques fatalistes.
Votre mot de passe, c'est Nicolas, vous partout, c'est ça hein,
oui, oui, avec ma date de naissance.
Plus 1,
voilà. Merci, Marc Fauvel.